Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto et des motards, tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce qu'une partie de l'équipe de Kikinkou se trouve aux coupes Moto Légende sur le circuit de Dijon. Et c'est pour ça que nous aurons Guy au téléphone, qui a notamment rencontré les organisateurs, qu'il connaît bien, puisqu'il écrit aussi pour la Ville de la Moto. Et on aura aussi Lamiche, qui fera une interview de Jean-Michel Prudon, le monsieur touriste trophy, qui reviendra donc sur cette épreuve, et notamment qui nous présentera les pilotes, en solo et en SAD, qui vont participer. Donc c'est sur l'île de Man, et ça commence à partir du 28 mai jusqu'au 10 juin. Ensuite, dans les studios, nous avons de nombreux invités encore aujourd'hui. Je commencerai par Manu. Bonjour Manu.
Bonjour.
Voilà, donc tu es le président, le directeur du chapter Lille Europe, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est ça, on dit directeur.
Voilà. Et donc, tu nous parleras du club, des préjugés que les motards ont sur les membres du club aussi, notamment, mais aussi des motos, des balades. Je sais qu'il y a deux grandes manifestations prévues, notamment, il y a en juillet 2016, une petite surprise à Londres.
Oui, avec, tout à fait, un truc extraordinaire à Londres, oui, ça sert, on en parlera si tu veux.
Vous allez en moto visiter
la Tour de Londres. On a un accès privilégié. C'est une histoire de fou. Ils mettent les touristes dehors à 17h et on rentre avec les motos sur le site de la Tour de Londres.
Grâce au jumelage avec le club Harley.
Maintenant, je peux t'expliquer maintenant ou après
On en parlera après. C'est pour donner appétit à nos auditeurs. Ouais. Voilà. Ensuite, quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien, Monsieur Moto du Pas-de-Calais. Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Voilà. Et donc, tu es venu avec Patricia. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Donc tu es formatrice d'auto-école, à la fois auto et moto-école.
Tout à fait.
Et vous êtes venue notamment nous parler du fiasco, on peut le dire comme ça, du nouveau code de la route, enfin examen du code de la route, qui est entré en vigueur depuis le mois de mai. Juste un chiffre peut-être, d'habitude il y a 70% de réussite à cet examen. Là, cette année, enfin après cette épreuve-là, cette nouvelle épreuve, il y a eu 16,8 je crois, un truc comme ça quoi. Donc forcément, il y a de quoi se poser des questions. Donc vous nous parlerez des modifications, qu'est-ce qui a changé? Je crois qu'il y a 300 questions en plus, il y en a 1000 maintenant.
Voilà. On a 1000 questions.
Auparavant, il y en avait 700. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des séquences vidéo. Il y a aussi des nouvelles technologies qui ont pu un peu perturber. Et on parlera de la réaction des autos et des moto-écoles qui n'étaient pas du tout pour et qui ont essayé de faire retarder cette nouvelle modalité d'examen peu de temps avant les vacances qui correspond à un afflux important quoi, de candidats et que ce n'était pas du tout les bonnes conditions. Quoi, à ce sujet-là. Tu parleras peut-être aussi, Michel, du casque d'or, là, un prévu la semaine prochaine, je crois.
Oui, exactement. Ouais. J'en ai passé un hier, et puis la semaine prochaine.
Ouais. C'est où la semaine prochaine?
Alors, il y aura Coulogne au matin et Saint-Omer après-midi.
Voilà, et la semaine d'après aussi à Lens, je crois, c'est ça?
À Lens, et là, c'est le casque de platine qui est encadré avec les motards de la police nationale.
D'accord, et donc j'ai entendu tout à l'heure qu'il pourrait peut-être y avoir un casque d'or avec le club Harley.
On peut très bien faire un casque d'or, un challenge avec le spécial Harley-Davidson, enfin spécial, avec les Harley-Davidson, avec grand plaisir. Ouais.
Ah, voilà un scoop. Ensuite, je termine par ce tour de table avec notre motard routard qui va nous donner des idées de balade, Yanis.
Motard routard de Kikinkou,
absolument.
Kikinkou, absolument. C'est bientôt les vacances, c'est bientôt l'été. Bon, ça se voit pas aujourd'hui, mais il va être temps de préparer ses vacances. À moto, bien entendu.
À condition que tu trouves de l'essence.
À condition que tu trouves de l'essence, ouais.
Enfin, on va présenter l'ensemble de l'équipe, avec, comme d'habitude, à la technique et à la programmation musicale, Monsieur Laurent Rodier.
Bonjour à tous, c'est parti.
Musique.
Me over the hill. People
people say go, where the people gonna be? But people never seem to wanna be around me. So I'm gonna try, try, try again. Got to push on through that thick end. My chest is the weight of my soul. People see my heart wherever I go. And the way that I live is the way that I want. Who could really tell me if I'm right or I'm wrong? So I'm gonna try, try, try again. You got to push on through that thick and thin. Could somebody, could somebody, could somebody tell me? Could somebody, tell me? Could somebody, could somebody tell me? Somebody tell me what I'm gonna wanna supposed to be.
Morceau cool pour se réveiller tranquillement le dimanche matin, c'est super, non? On retrouve Manu, donc le président du chapter Lille Europe, qui fait partie du HOG, c'est ça?
Le oui, c'est ça.
Harley Over Group, c'est comme ça
qu'on dit? Owner Group.
Owner Group, Owner Group.
Ça, c'est le club des possesseurs de Harley.
C'est ça, donc quand tu achètes une Harley, tu es automatiquement membre du HOG.
Oui, la première année.
Voilà.
C'est-à-dire que Harley t'offre l'adhésion la première année. Pour amorcer la machine, hein, pour te donner envie. Chaque chapter est affilié au HOG. C'est-à-dire que quand tu es au chapter, tu es automatiquement... Enfin, tu dois être adhérent au HOG. C'est une obligation.
Ouais, d'accord.
C'est comme ça. T'as une double cotisation. Une cotisation au HOG, une cotisation au chapter.
D'accord. Et donc la première année, c'est offert. Et après,
tu dois payer ta cotisation. Alors, ils sont pas bêtes pour parce que c'est... À la base, c'est du marketing.
C'est du marketing.
C'est Willie G qui a eu une idée de génie, Willie G Davidson, qui a eu une idée de génie en 83 en créant le HOG. Il te propose même le life member, c'est-à-dire que tu prends 10 ans d'un coup, tu paies 10 ans d'un coup. Et puis ben là, il faut vivre plus de 10 ans. Donc faut le prendre le plus jeune possible.
Et c'est moins cher.
Parce qu'au bout de 10 ans, c'est rentabilisé au bout de 10 ans. Hein, tu te dis une fois que moi ça y est, ça fait 10 ans. Donc maintenant c'est que du bénéfice. Je ne payais plus, j'ai payé une fois, mais ça vaut le coup. Bon, si tu achètes ta première moto à 90 ans, t'es pas sûr de la rentabiliser. Tu le fais à 30 ans, c'est plus facile.
Et chaque chapter est affilié, si je peux dire, à une concession, rattaché
oui.
à une concession.
Alors,
quoi.
Bon, en gros, oui. Alors, normalement, chaque concession est tenue d'avoir un chapter.
D'accord.
C'est comme ça. Bon. Maintenant, il y a aussi, parce qu'il y a des concessions où ça se passait mal, etc., il y a aussi des chapters qui s'appellent des free chapters. C'est-à-dire qu'ils sont toujours affiliés au HOG. Ils sont libres. La couleur n'est pas la même. Si tu vois les bananes dans le dos, c'est plutôt une couleur crème, un blanc cassé.
D'accord. Explique-nous un peu les codes couleurs.
Il y a le logo du HOG. Hein,
avec l'aigle, c'est ça?
Oui, il y a l'aigle, il y a une roue. Hein, et puis après, il y a ce qu'on appelle les bananes, avec le nom du chapter qui est mis au-dessus.
D'accord.
Voilà, comme ça, on sait tout de suite. Bon, en grande taille derrière, sur le gilet, en petite taille devant. Comme ça, au moins, tu croises quelqu'un, tu vois tout de suite d'où il vient.
D'accord. Hein. Et vous avez également la fonction qui est affichée aussi.
Oui, alors là aussi, pour faciliter les contacts et puis savoir qui fait quoi et qui est qui. C'est-à-dire que on dit pas président en fait. Hein, c'est toujours un peu marketing.
Directeur.
Chez les Américains, ouais,
directeur.
Ça me fait toujours rire ça. Hein, parce qu'on est une asso de 1900, hein, donc le président, il est président. Mais chez Harley, on dit director, assistant director. T'as le trésorier, tout ça en anglais, treasury, secretary, etc. Donc on sait qui est qui et ça aide. Puis on met les prénoms. Mais ça, dans le monde des bikers, c'est partout pareil. Hein.
Et la BD de Margerin, finalement, elle
c'est
est...
exactement ça.
C'est ça. Hein,
mais c'est exactement ça. C'est on est mort de rire quand on lit
c'est
ça.
Bien c'est bien observé.
Ah mais oui, mais c'est exactement ça. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 3-4 fois et on rigolait de ça avec lui. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. Il y a de la caricature, mais il y a aussi de la caricature dans la vraie vie.
Et en parlant de caricature, justement, vous n'êtes pas tous des motards de 50 ans, chirurgien dentiste qui est dans le hog.
Non. On n'achète pas tous des motos à l'âge de la prostate. Hein, on n'est pas tous comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une image qui est un peu véhiculée, qui a été vraie il y a quelques années, dans la mesure où les motos étaient très chères. Et bon, il faut certains moyens. Un jeune de 20 ans qui démarre dans la vie, il n'a pas toujours les moyens de s'acheter ce genre de moto. Harley a quand même changé sa manière de faire et maintenant le ticket d'entrée chez Harley est beaucoup moins important. Hein.
Surtout si tu le compares avec d'autres marques.
Mais bien sûr, bien sûr.
Japonaises, quoi,
mais bien sûr, quand tu vois certains cruisers japonais, ils sont aussi chers que des touring chez Harley. Alors pourquoi prendre l'imitation quand tu peux avoir l'original pour le même prix? Bah oui, non mais c'est ça. Le problème c'est que t'as parfois des gens qui n'osent pas franchir le pas, ils n'osent pas rentrer dans la concession, c'est dommage.
Pourquoi?
On sait pas trop, ils disent bah non c'est pas pour moi ou etc. Mais s'ils rentrent dedans, ils vont voir qu'ils sont bien accueillis. Hein. En plus, comme il y a toujours des membres du chapter qui sont là, on offre un café facilement. On discute avec les gens, on est des passionnés.
Ah, j'ai vu que vous avez un club house, c'est ça?
Oui, on a un club house, oui, tout à fait.
À l'étage,
oui.
La concession. Et donc, tous les premiers samedis du mois, je crois, vous...
Le dernier vendredi du mois,
c'est ça?
On a une réunion mensuelle, oui, tout à fait.
Et on peut aller en tant que client, visiteur, vous rencontrer
si
à,
tu veux,
à ce moment-là?
Oui, alors, on peut, bien sûr. C'est ce qu'on propose maintenant, c'est que quand tu as des personnes qui viennent nous poser des questions, on leur dit, venez, on fait une réunion tel jour, on prend les coordonnées, on les appelle ou on envoie un mail pour qu'ils puissent venir faire connaissance. Et même parfois, on leur dit, venez faire une balade avec nous. On ne prend pas la cotisation tout de suite. De toute façon, on les fait venir, ils font une balade avec nous, ils voient un peu si ça leur plaît, etc. Ils prennent leur cotise. On ne donne pas les couleurs. Parce que souvent, c'est dans des clubs comme ça, on donnait les couleurs dès qu'on faisait le chèque. C'est fini, ça. Maintenant, il y a une période d'observation, on se regarde.
Probatoire.
Voilà. C'est, bon,
on est
c'est...
prospect.
Ouais, alors, oui, on n'utilise pas ce mot-là. Voilà, on n'utilise pas ce mot-là parce qu'on n'est on pas un MC. Puis en plus, on ne fait pas de patch prospect. On n'est pas dans cette optique-là, mais un petit peu. Pas complètement, mais un petit peu. On veut éviter les erreurs de casting.
Ouais, parce qu'il y a des conditions très strictes pour rouler avec vous. Hein. J'ai vu, il faut respecter des règles.
Ah bah, au niveau sécurité, oui, on est très, très sensible. Bah, tu ne déplaces pas 40 ou 50 motos, voire 100 motos, puis des grosses motos, très souvent, comme ça. Donc, on a des stages de sécurité tous les ans. On a un monsieur sécurité chez nous aussi, hein, Claude Parisot, qui s'occupe de ça. On forme des safety, ce qu'on appelle les safety officers, etc. Ah, oui, non, bien sûr. Il faut... Alors, c'est complètement transparent. Ça devient une habitude. Il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien, mais ça évite les accidents.
Par contre, donc pour faire partie ou pour rentrer dans le HOG, il faut bien entendu une Harley.
Ah oui, j'ai eu le cas
c'est
il y a
impératif.
Trois jours. J'avais une double cotisation là dans la boîte aux lettres du club, et puis mais un seul bulletin de rempli et deux chèques. Donc j'ai appelé et puis je suis tombé sur une dame très gentille. Mais elle me dit oui, mais mon mari, je lui dis qu'est-ce qu'il a votre mari comme moto? Il a un phaser. Ah, je lui dis écoutez là, il y a un problème. Alors je lui ai expliqué. Elle fait c'est râpé. Je dis oui, je suis désolé, c'est râpé. On vous renvoie vos chèques. Parce que bon, c'est tout.
Ok, on va passer un petit morceau de musique et après tu nous parleras des prochaines activités prévues.
Ouais, d'accord.
Merci.
Judge apple by looking at the tree. Can't judge a honey by looking at the bee. Can't judge a daughter by looking at the mother. You can't
judge a book by looking at the cover, baby. Can't you see how you misjudge me? Well, I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Judge sugar by looking at the cane. Can't judge a woman by looking at the man. Can't judge a sister by looking at the brother. You can't judge a book by looking at the cover, baby. Can't you see how you misjudge me? Well, I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. At the pond, you can't judge right by looking at the wrong. You can't judge one by looking at another. You can't judge a book by looking at the cover, baby. Can't you see how you misjudge me? Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover, child.
Bien, un bruit de bicylindre, là, ça tombe bien. Manu, le président du Lille Chapter Europe. En termes d'activité, vous avez prévu quoi? Je crois qu'il y a un gros truc en juillet, je crois, non?
Oui, le gros truc qui arrive, là, c'est Londres, puisque depuis 2012, nous sommes jumelés avec le club d'Hastings, en Angleterre, dans le Kent.
Et d'ailleurs, à cette occasion, ils étaient venus sur l'île,
oui.
Et vous aviez fait une parade, je crois,
centre de l'île de Lille, oui, tout à fait.
Où il y avait quoi, 250 bétanes,
ouais, 250 motos, oui.
Tout était bloqué.
On ne voulait pas bloquer, mais c'était bloqué par la force des choses. Mais c'était sympa, parce qu'on était arrêtés, je me rappelle, il faisait une chaleur à mourir, on arrêtait les bécanes, les gens venaient prendre des photos, mettaient les enfants sur les selles et tout. C'était vraiment bon enfant, c'était vraiment très très sympa. Donc depuis 2012 avec le club, c'est le 1066 chapter d'Hastings, donc la date de la bataille d'Hastings où Guillaume le Conquérant est allé flanquer la pâtée aux Anglais à l'époque, mais ils ont ce nom là. Bon bah c'est bien, ils sont vraiment très sympas, on les voit régulièrement, ils passent aussi dans l'année et tout, vraiment il y a une super ambiance, un très gros club, hein. Ils ont 350 membres. C'est...
Et vous, c'est une centaine, je crois.
Bah là, on est à 135, on était monté à 185, on a réduit un peu, on réduit exprès. Hein. On veut être moins nombreux, mais avoir des gens plus motivés. Et on choisit beaucoup plus nos membres maintenant. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens faire un chèque qu'on va t'accepter. Avant, c'était un peu comme ça. Maintenant, on fait plus ça. On veut vraiment des gens impliqués et sympas.
D'accord. Donc avec vos collègues là de Londres, vous allez...
Alors on part donc le week-end là-bas. On va se lever tôt pour aller prendre le shuttle. Et comme d'habitude, ils nous attendront à la sortie. On va sur Hastings. On va à la concession parce que comme c'est jumelé évidemment avec une concession Shao. Shao, ils sont réputés dans le monde entier hein, pour faire des motos. Ils font des motos à préparer extraordinaires. Ils ont une patte. On les reconnaît tout de suite les motos de chez Shao. Petite fête, etc. Bon, faites le soir aussi, balade prévue. Et le lendemain, le point d'orgue, c'est la fameuse, le fameux retour vers Londres, où là, on va être obligé de se séparer et faire des groupes, parce que la police ne veut pas d'un gros groupe à 200 ou 300 motos qui arrivent. Donc, ce seront des petits groupes. Et on va investir à la Tour de Londres. C'est-à-dire qu'à 17h, ils mettent tous les touristes dehors. On rentre sur le site, ce qui normalement est interdit. Hein. Il n'y a aucun véhicule.
Vous rentrez en moto sur
Bien sûr, oui, c'est ça, parce que sinon, c'est pas la peine. Hein.
Dans une tour historique à côté de la Tamise.
Et est-ce que pour l'anniversaire de la reine, vous allez lui proposer un baptême en Harley?
Oui, c'est prévu. Alors, on a demandé, parce qu'on a quand même cette chance-là, c'est qu'un des membres du 1066 a un beau-frère, et son beau-frère, c'est le chapelain personnel de la reine d'Angleterre. Alors, on a essayé de passer le message, mais on n'a pas de réponse. Parce qu'on a dit, mais qu'elle vienne, la Queen, on aimerait bien, ce serait vachement sympa.
Ouais.
Ou alors Kate, elle est sympa aussi.
Ah,
je préfère que ce soit Kate.
En cuir, hein, j'imagine bien.
Ouais, ça, j'aimerais bien. Hein.
Réagis, Patricia, hein, si on est trop macho, réagis. Hein, surtout,
ça va. Attention, on n'est pas macho, hein, Charlie. On a l'impression que les bikers sont des machos, c'est pas vrai. Nos femmes viennent avec nous et elles roulent aussi nos femmes.
Vous avez une section féminine,
bien
je crois.
Bien sûr.
Il y avait une réunion européenne, internationale.
Oui, voilà, on a fait le premier rassemblement des Lady of Harley, parce qu'on appelle ça les Lady of Harley.
Lady of Harley.
Qui, elles, conduisent leur moto. Et il ne faut pas croire, c'est pas que des 883 et des 1200 qu'elles conduisent. Hein. Elles ont des touring. Hein. J'ai vu des baggers de toute beauté à Grimaud, là, il y a un mois. Des petites nanas qui devaient faire 1m60, des italiennes, qui étaient sur des baggers préparés. Mais c'était incroyable. On se demandait comment elles tenaient, hein, à la pointe des pieds. Et elles partaient comme des fusées, il fallait voir ça. Hein.
Ça fait rêver.
C'est ouais. La magie Harley, ça.
Ouais, ouais.
En plus, t'imagines, Luc, sur des Harley, des petites nanas... Et il fait chaud. Et tu peux te dire que le cuir, quand il fait chaud, t'en parles pas beaucoup.
C'est exactement ça.
Voilà, tout ce qu'on... Mais c'est pareil pour les hommes aussi. Hein. Ils sont pas trop habillés non plus quand il fait beau, j'imagine.
Tu roules torse poil sur ta bécane quand il fait chaud là.
Ouais, pour montrer mes tatouages. Ouais. Mon tatouage kick un coup. Et donc il y a cette balade au mois de juillet.
Voilà.
Et puis après il y a les 15 ans je crois du.
Oui oui. Alors
il date de 2001 la création du.
Oui oui
du
voilà.
Chapter.
Voilà, ça fera 15 ans. On a déjà fait les 10 ans. Là les 15 ans. Alors les 15 ans c'est encore en préparation. Parce qu'on va faire une belle soirée de gala avec remise des couleurs puisque maintenant on a décidé que les remises de couleurs du club se feraient une fois par an. Et lors d'une cérémonie officielle. On veut vraiment marquer le coup, donner envie aux gens et que les gens soient fiers de porter leurs couleurs. Que ce soit pas simplement parce que j'ai fait un chèque, d'avoir les couleurs, le faire un an, puis après, parce qu'on en a, on en voit, hein, qui ne sont plus au club depuis 7-8 ans et qui continuent à arborer les couleurs et à se la jouer et tout. Donc on en a marre de tous ces trucs-là, voilà, on change.
D'accord. Sinon, il y a des balades régulières qui sont
organisées. Ah, mais oui, non, mais alors il y en a tout le temps.
Il y a des rendez-vous informels un peu, je crois, sur la concession.
Oui, bon, le samedi en général, c'est même pas en général, c'est la deuxième maison, la concession. Donc le samedi, tout le monde passe. Donc il y a des balades qui partent comme ça. On décide, tiens, on va aller se boire un coup en Belgique, tiens, on irait pas voir tel truc, tiens, il y a une expo à tel endroit, bon, on y va. Ça peut être 3 personnes d'un coup, ça en peut être 10, etc. Et après, il y a les balades qu'on prévoit 2 mois à l'avance avec. Des circuits déclarés et tout, puisqu'on est obligé de déclarer les circuits, hein, etc. Ça se fait pas comme ça.
Ok. Vous avez des choses prévues prochainement là ?
Alors écoute, on vient d'avoir là un gros déplacement dans les Ardennes de 3 jours. Avec un de nos membres qui s'appelle Philippe Lefebvre, qui nous fait toujours des... Yves Lefebvre, pardon. S'il m'entend, il va m'engueuler. Yves Lefebvre, qui nous fait toujours des déplacements tirés au cordeau. Il prévoit tout, c'est extraordinaire, c'est génial. Ils ont passé 3 jours, on a vu les photos, les commentaires sur le site, les gens sont ravis. On va voir un truc qui va se passer dans une balade d'une journée sur Reims. Sur Reims. Bon, et puis, je veux dire, j'ai pas le programme en tête parce que il y a 7-8 balades. Et là, de toute façon, on va mettre en route le deuxième gros parce qu'on fait au semestre. Donc là, d'ici une semaine, on va avoir une réunion. Et là, on va mettre en route toutes les prochaines balades. Mais tout sera sur le site et sur l'agenda, comme d'habitude. Mais de toute façon, pour le club, puisque ce ne sont pas des balades ouvertes.
Hein. D'accord. Vous avez un site internet ?
Oui, alors on a un site internet. Il suffit de taper Chapter Lille, on tombe dessus. Les gens peuvent voir 2-3 infos. Mais ils ne rentreront pas dans ces privés, hein, ça on est bien d'accord. C'est un club de marque, hein. Mais ça n'empêche que si des gens toutes les auditeurs ont une Harley et ont envie de venir voir ou osent pas, qui viennent nous voir le samedi. De toute façon, ils vont voir les couleurs, ils vont voir marquer des gars avec marqué Lille Europe Chapter. On va pas les mordre, on va leur offrir un café, on va boire un coup, on va discuter. Et on va leur proposer de venir faire un tour, venir à une réunion, venir faire un tour avec nous sur une journée ou sur deux heures. Le format 2-3 heures du samedi après-midi plaît beaucoup. Hein. Les gens bossent, ont pas toujours le temps, il y a les courses à faire, les machins. Un format court sur une après-midi, ça plaît beaucoup. Hein.
D'accord.
Tous les ans, la plus grosse balade qu'on a, en fin de compte, c'est tous les ans, c'est la balade des nouveaux. Où là, quasiment tous les membres sont là. Hein. Ce sont les anciens qui emmènent les nouveaux. Puis après, on a la balade des anciens. Ce sont les anciens qui emmènent aussi les anciens et les nouveaux. C'est la même chose. Hein. Mais ce sont les balades. C'est un format de deux heures. On rigole avec ça, parce que c'est toujours la même chose. Et tout le monde est là, quasiment. De 2-3 heures, pas plus. Et là, ça plaît beaucoup.
Et pour terminer, en parlant moto, il n'y a pas que des toureurs
Non, il y a de tout. Parce que là aussi, c'était une image à un moment. Si t'as pas un touring, c'est que t'as pas les moyens, t'as rien à faire là. Mais il y avait des gens qui véhiculaient ça aussi. Hein. Il y avait des gens odieux, ça, mais comme partout. Mais non, on a des jeunes qui sont là, qui ont des 8,83, des 1200. Et on s'adapte dans les balades. C'est-à-dire qu'on les met devant.
Ceux qui roulent moins vite.
Voilà. Et puis même, autonomie. C'est l'autonomie, surtout.
Ah ouais, c'est l'autonomie. Avec une boîte à chaussures, c'est vrai que tu peux pas aller très
loin. Oui, généralement, c'est entre 100 et 150 km. Hein.
Ouais,
donc, le road captain le sait, les safety le savent, et on a des arrêts plus fréquents, bien sûr. Quitte parfois à faire une scission, ils nous rejoignent, on s'adapte.
Voilà.
C'est comme partout, on s'adapte toujours entre guillemets aux plus faibles. Hein.
Donc le HOG est un club ouvert,
bien sûr,
aux gens qui roulent en Harley.
Bien sûr.
On va le dire comme ça.
Qui viennent nous voir. Qui viennent nous voir.
Bon, on va le dire à la Miche. Hein. Il a une road. Qu'est-ce qu'il a lui? Un Dina Glide.
Une Dina.
Ouais. Dina,
très custom.
Ouais.
Tout à fait.
Mais les Dina,
quand elles roulent. Bah, il a quand même 100 000 km.
Hein. Les Dina, ce sont les mêmes moteurs que les Touring. Hein.
Attention, c'est
la caisse qui change.
Ouais, hein. Bien sûr.
Plus adapté pour l'Europe, en fait, la Dina, quelque part.
Oui. Ah, aux États-Unis, il y en a beaucoup
c'est
aussi.
C'est une sorte, hein, de grosse portière, finalement, le Dina, si on peut le dire.
C'est un super compromis. Hein.
Bon, on pourrait en parler encore pendant des heures. Merci, Manu. On va passer un petit morceau de musique et après, on retrouvera Patricia et Monsieur Moto. A tout de suite.
Round.
Radio Campus, Kick un coup, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Nous retrouvons Monsieur Moto, Michel, et Patricia, formatrice en auto-moto-école. Donc, on a un nouvel examen du permis de conduire depuis le 1er mai. Ça a été un fiasco total, hein. Comme je disais tout à l'heure, on a eu à peine 17% de taux de réussite, alors que d'habitude, c'est plutôt 70%. Donc, ce nouvel examen a changé. Qu'est-ce qui a changé, Patricia ?
Alors, des nouveaux thèmes ont été intégrés. Par exemple, beaucoup plus de questions en fait basées par rapport au comportement.
Il y a 300 questions de plus, c'est ça, par rapport à avant.
On a changé la banque de questions et on a mis 1000 questions, 1000 nouvelles questions.
Et donc, ça veut dire que les candidats, ils doivent se préparer à 1000 questions. C'est ça que ça veut dire.
Alors, le code de la route en lui-même reste le même. Maintenant, des nouveaux thèmes ont été intégrés. Donc forcément, ces nouveaux thèmes, on doit les travailler aussi en cours de code. Et le problème, c'est justement qu'on a eu très peu de temps pour préparer les élèves.
D'accord.
Nos fournisseurs, au niveau du code, des livres de code, des séries, etc., ont eu très peu de temps aussi pour faire les nouvelles séries, pour réagir. Donc forcément, ça a décalé, d'où les résultats un peu compliqués.
Finalement, ils n'étaient pas prêts, quoi, les candidats, c'est ça ?
Non.
À cause de ces nouvelles questions ?
Le temps était beaucoup trop court pour préparer les candidats.
D'accord, donc c'est une erreur en fait de l'administration.
C'est précipité, c'est un peu précipité.
C'est le timing
tout
qui est pas
fait,
bon quoi.
Tout à fait.
J'avais lu dans la presse un responsable d'auto-école qui disait, pour faire comprendre aux gens, c'est un peu comme si tu prenais les épreuves du bac et que 2 mois avant tu les changes. Alors forcément, ils vont se planter quoi. Bah, c'est un peu la même idée.
C'est le programme,
finalement.
Tout à fait, comme si on changeait le programme 2 mois avant, tout à fait. C'est ça.
Mais il n'y a pas que des nouvelles questions, il y a aussi une forme d'évaluation qui est différente. Il y a par exemple ils utilisent davantage les nouvelles technologies, j'ai cru comprendre.
Alors en fait, il y a certaines questions vidéo qui vont être intégrées, mais qui ne le sont toujours pas actuellement.
Ah d'accord.
Elles seront intégrées quand les examens seront passés dans le privé, puisque le code après va être ce qu'on appelle externalisé. Donc ce ne seront plus les inspecteurs qui vont faire passer l'examen, mais ce sera des sociétés privées. Et à partir de ce moment-là, il y aura des questions vidéo pour des mises en situation.
Il y aura la poste aussi, non ? Je crois pas. Il y a
oui,
la poste aussi.
La poste en fait partie, tout
ouais,
à fait.
Parce que forcément, comme ils sont livreurs, avec leur voiture jeune, ils sont compétents, c'est ça ? Mais quand tu dis qu'ils vont faire passer, tu veux dire qu'ils vont surveiller en fait l'examen ?
Tout à fait.
Donc si moi, par exemple, surveille, Yanis, à une épreuve de philo, j'ai pas besoin d'être prof de philo pour surveiller une épreuve.
Non, absolument pas.
Là, c'est informatisé. Donc à partir du moment où on passe l'examen, on donne le boîtier, on vérifie les dossiers, on donne le boîtier, l'élève répond aux questions. Et puis ensuite, tout est fait par informatique. Sachant qu'après, même chose, on n'aura plus les boîtiers, on va passer sur tablette.
Ah ouais, des numériques, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que les candidats sont entraînés à l'utilisation du boîtier ou de la tablette.
Tout à fait, tout à fait.
Donc déjà en cours de code, vous avez déjà
les élèves travaillent sur boîtier.
C'est important de se familiariser avec.
Bien sûr. Ça enlève une partie du stress le jour de l'examen.
Bah ouais, j'imagine. Ouais. Mm. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même des questions un petit peu tordues, comme par exemple si je roule, enfin pas tordues mais nouvelles, si je roule pendant un pic de pollution, quel type d'amende je peux avoir? Il y a ce genre de questions ?
Oui, puisqu'on a intégré les thèmes d'éco-conduite.
Ah ouais, c'est ça.
On a intégré également les thèmes des premiers secours. On parle aussi des autres usagers, beaucoup plus des autres usagers. Notamment au niveau des questions de code, on a beaucoup plus de motos qui sont présentes au niveau des questions pour justement...
Ça, c'est bien pour les motards, non ?
Tout à fait. On en parle beaucoup plus et on peut sensibiliser beaucoup plus les futurs conducteurs aux dangers, aux fragilités des autres usagers.
L'idéal, ça serait de pouvoir les emmener derrière une moto pour leur montrer justement comment c'est différent, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
C'est pas prévu, ça, encore, non ?
Non, on le fait pas. Bon, après, certains élèves qui passent le permis voiture, après, passent en moto tout de suite. Donc,
c'est vrai ?
On peut le faire,
vous
oui.
Vous en avez beaucoup ?
Ah, j'ai pas mal d'élèves qui ont soit qui enchaînent directement sur le permis auto ou qui ont en projet de le faire très rapidement, oui.
Parce que si tu passes le permis auto, normalement ton code est valable 5 ans, c'est
5
ça ?
5 ans.
Ça reste toujours comme ça ?
Oui, ça change pas.
D'accord. Et donc j'ai oublié le délégué, c'est ça ?
Interministériel. Emmanuel Barbe.
Barbe, voilà. Il répond aux critiques qui sont faites là, sur le nouveau code de la route en disant que, en fait, c'est parce qu'il n'y avait que 3300 candidats cette session, donc c'est pour ça que les résultats seraient aussi faibles. C'est un pourcentage, je vois pas le rapport avec. Parce que d'habitude, ils sont le double, ils sont plus de 6000, quoi. Alors, je vois pas le rapport, hein, personnellement.
Après, là, clairement, les dernières modifications qui ont été faites, c'est que sur les 1000 questions, une grosse partie des questions a été supprimée de façon à être... de façon à être refaite et réintégrée progressivement au niveau de l'examen, justement pour laisser le temps aux candidats de se préparer.
D'accord, d'accord. Donc ils vont en virer quelques-unes, quoi, c'est ça ?
Oui.
Ils ont déjà commencé, non ?
Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait depuis le 10 mai.
D'accord, ok. Une réaction, quoi, une première réaction.
Oui.
Vous restez avec nous, on va passer un petit morceau de musique et après on parlera notamment du délai d'attente quand tu échoues. Le temps, je crois qu'on est les champions d'Europe par rapport à la durée d'attente entre les deux examens. Mmh. À tout de suite. Ça, c'est de la musique rock and roll. Patricia, donc formatrice d'auto-école, On revient sur ce nouvel examen du permis de conduire. Donc on disait que notamment le motard était quand même plus visible, plus intégré dans les diapositives, dans les questions.
Beaucoup plus intégré en visuel déjà au niveau des images et aussi dans les questions.
Par exemple,
on va parler de la circulation interfil, on va avoir des situations de dépassement où justement dans le rétroviseur on a un motard qui arrive. On part aussi à la capacité d'accélération, c'est-à-dire je suis déjà en train de dépasser, un motard est sur la voie de droite, il a mis son clignotant, est-ce que je continue mon dépassement ou est-ce que j'attends des exemples comme ça par exemple.
D'accord, et donc ça permet qu'il y ait une prise de conscience, c'est ça, de l'automobiliste, du futur automobiliste, de la différence entre la moto et la voiture. Quoi.
Là, on sort du cadre où avant, voilà, on parlait, on passe le permis voiture, on parle de la voiture, on connaît la voiture. Là, on apprend à partager en fait l'espace avec les autres usagers selon leurs différences, leurs fragilités, leurs vulnérabilités par rapport au gabarit, par exemple au poids lourd, etc. et aussi justement par rapport au motard.
Le but étant de mettre le futur conducteur en situation, c'est ça ?
Voilà, avec les questions vidéo, on arrive là, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment de la mise en situation sur des situations qu'on pourrait rencontrer tous les jours sur la route. Et plus forcément sur une image qui est figée, où on a parfois un peu de mal, surtout un élève débutant a un peu de mal à se mettre en situation.
D'accord, donc parce que ça sera une image animée, on pourra mieux se projeter qu'une diapo comme on avait avant, quoi.
Voilà,
c'est ça ?
Parce qu'on voit l'évolution de la situation.
D'accord, ça veut dire combien de temps cette vidéo ? C'est pas ?
Oh, c'est très court, hein. c'est une dizaine de secondes, et puis après l'image se fige et on a la question.
D'accord, vous les avez pas encore eues, les vidéos aussi ?
Alors, nos élèves s'entraînent déjà sur les questions vidéo, par contre à l'examen, elles ne sont pas encore présentes.
D'accord. Donc tu t'en as déjà vu et tu as déjà pu préparer tes élèves
tout à fait.
Avec ça, quoi.
Sur les 40 questions, en général, on a 3 ou 4 questions vidéo.
Et c'est plus facile avec la vidéo ?
C'est plus facile, oui, malgré que certains élèves ont encore justement un peu de mal parce qu'ils se sont entraînés sous l'ancien format. Ouais. Et les questions vidéo les perturbent un peu.
C'est ça qui perturbe, c'est le mode d'évaluation en fait. Hein. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Je ne sais pas si je le repassais. Je sais que dans le cas, pour faire une transition avec Michel, dans le cas des reprises de guidon, j'en ai déjà fait quelques-unes. Il y avait notamment des questions sur le permis de conduire, mais du code de la route, mais raccourci, toi, tu passais pas à toutes. Et franchement, j'avais pas les 35 bonnes réponses. Hein. Parce que je pense d'abord il y a le mode d'évaluation, donc le fait de lire l'image, savoir lire l'image, ensuite les questions, donc savoir lire les questions, notamment les pièges, parce qu'il y a des pièges, il y a des doubles négations par exemple qui s'annulent, enfin ce genre de truc, quoi. Et puis aussi après quand tu conduis régulièrement, t'as des habitudes qui font que faut surtout pas dire ça au code de la route, quoi.
Mais après au niveau de l'expérience, c'est vrai que quelqu'un qui a de l'expérience va voir la situation dans son global et va réagir par rapport à son global. Là on demande au niveau du code de connaître la réglementation, on demande de connaître les bases pour après justement, je connais les bases, je peux tenir compte des autres usagers, de la signalisation et voir quel indice est le plus important.
Donc du coup, plus tu auras d'expérience et moins tu seras performant à l'examen.
C'est une question d'entraînement après, il faut refaire de l'entraînement.
Tu le proposes ça, Michel, lors des casques d'or ?
Oui, tout à fait, on fait un quiz code de la route, bon, il ne passe pas un examen. C'est surtout que les motocyclistes puissent prendre conscience que le code de la route n'est pas acquis à vie. Le code de la route change, évolue, et bon. Et puis, mais ça reste quand même convivial. On n'est pas dans l'épreuve d'examen. Moi, j'aime bien voir les motards entre eux se copier et puis ensuite se fustiger parce que ni l'un ni l'autre a la bonne réponse. Mais voilà, il y a une conversation, il y a une discussion qui se crée.
Une prise de conscience.
Mais c'est surtout le fait de se dire tout compte fait, ça, j'ai pas vu. Puis ça leur permet de se dire, il y a des vrais panneaux, on a parfois aussi des mauvaises habitudes. Voilà, mais c'est simplement un petit révélateur, quoi. Je veux dire, c'est une épreuve, mais bon, on se prend conscience que le code de la route, il évolue, il change, et puis les situations. Et c'est pour ça que je suis content, c'est le chargé de mission qui vous parle, là, du droit motorisé, que le motocycliste est intégré dans le code. On parle bien de vulnérabilité des piétons, des cyclistes et tout, mais auparavant, lorsqu'on regardait, il n'y avait que 2 ou 3 diapos dans les anciennes séries de code. Je ne veux pas me prendre la place de Patricia ou d'autres. Mais maintenant, les motocyclistes font partie intégrante. On parle bien de la circulation interfile, même si les jeunes qui passent leur permis à Lens, à Arras ou autre, ou même dans le Nord, et on n'est pas impacté par cette expérimentation de circulation interfile, puisque c'est Paris, Lyon et la Gironde. Mais un jeune qui peut très bien aller sur Paris ensuite, bon, on va assimiler, intégrer la circulation interfile, et c'est une bonne chose.
Et quand tu disais, c'est vrai que le code de la route évolue, par contre, il n'est pas prévu de formation continue des conducteurs.
Non, pour l'instant, non. On est toujours sur le système où quelqu'un qui va repasser le permis doit repasser le code au bout de 5 ans. Après, rien n'empêche un automobiliste, un motocycliste de venir dans une auto-école et demander à refaire du code. Moi, j'accepte sans problème les personnes qui veulent se remettre en question. Et...
Il faut une inscription aussi.
Ah non. Quelqu'un qui vient chez moi et qui demande à faire une série de codes pour dire de se remettre. Et d'ailleurs, j'ai le cas avec certains parents d'élèves qui sont en conduite accompagnée où les parents me demandent de faire des séances de codes. Donc, au contraire, je suis ravie qu'ils aient cette initiative, en fait.
Ouais, c'est une bonne idée parce que quand tu vois le nombre de gens qui ne savent pas prendre un rond-point, par exemple, hein, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, tout simplement. Et puis maintenant, il y en a partout. C'est vrai que c'est dangereux, ça. Hein. Encore un petit truc là sur le permis de conduire. Donc il y a un délai quand tu loupes le code de la route, tu dois attendre un certain temps. Je crois que c'est plus de 90 jours en France.
Alors voilà, c'est une moyenne. Après, ça dépend des départements, effectivement.
Et du nombre de candidats qui se présentent, ça.
Oui, les places d'examen sont attribuées. Alors pour le code, sont attribuées par la préfecture. Donc chaque auto-école a un nombre de places déterminé dans le mois. L'externalisation du code, justement, va servir à réduire ces délais, puisque on aura... Après, c'est juste, voilà, on prend un rendez-vous dans une société privée et on pourra le passer plusieurs fois, sachant que la différence actuellement, l'examen est gratuit, alors que quand on va passer en société privée, ce sera une cotisation de 30 euros. Enfin, un tarif de 30 euros.
Et ils feront que te faire passer l'examen, c'est tout.
C'est tout.
Et les résultats sont toujours envoyés après.
Tout à fait. On reste sur le même principe pour les résultats.
D'accord. Et donc, c'est une bonne chose, tu trouves, pour toi, ou cette évolution de l'examen et du code de la route ?
Ah, l'évolution est très bonne, justement, parce qu'on les oblige à apprendre la réglementation, parce que c'est la base, on n'a pas le choix, mais on agit aussi sur les comportements. Actuellement, quand on voit au niveau des accidents, par exemple, oui, il y a des infractions, mais il y a la base, le comportement. Il faut absolument modifier les comportements pour que les choses évoluent.
On est d'accord, hein ?
Bah oui, plutôt. Moi j'ai une question pour Patricia. On est à l'heure de l'Europe. Est-ce qu'il y a un projet d'uniformisation européenne pour le passage des différents permis ? Est-ce que c'est dans les tuyaux ? Est-ce que tu en as déjà entendu parler ?
Pour le permis moto, par exemple, quand la réforme a eu lieu, c'est justement une uniformisation européenne.
Ouais. Et pas pour la voiture ?
Enfin, j'ai pas entendu. Après, je ne m'avance pas.
Merci pour toutes ces infos, Patricia. Merci Michel. Je vous invite à écouter un petit morceau de musique et après on retrouvera normalement nos correspondants spéciaux à Dijon dans le cadre des coupes Moto Légende. A tout de suite. We'll be right back. ça déménage sur Radio Campus, Kick un coup, le magazine de la moto où on y met aussi de la bonne musique. Nous avons au téléphone Guy. Guy.
Oui, salut Luc. On vient de sortir de Dijon, mais comme dans le Nord, il y a la panique aux pompes à essence, mon cher ami.
Allez, t'as pas trouvé d'essence pour rentrer?
Ah, non, on pousse.
tu pousses la voiture?
Ouais,
ou la moto?
On est venu la voiture, la moto, ouais. Et parce que déjà, on a déjà tout le staff qui est sur place, c'est-à-dire la miche, Christine et puis moi. Et la miche, il est arrivé vers 16h30 parce qu'il y a eu des problèmes de ravitaillement aussi de carburant.
Ah oui, hier.
Oui, voilà. Et puis, fil impressionnant dans les pompes à essence à Dijon, donc... par précaution, on a fait le plein, quoi, et puis voilà.
D'accord.
Donc c'était pour assister, là, aux fameuses coupes Moto Légende, et à Dijon, qui ça doit être la 26e édition, et où mettre les yeux, parce que, bon, il y a tous les clubs, il y a les pistes sur la course, pardon, par catégorie, les pilotes de Grand Prix, enfin, les motos anciennes, cette année, il y a même sur le circuit de karting des 50 cm cubes. C'est toujours impressionnant avec des Hinton, des Flandria, enfin, etc. Et aussi de voir des anciens pilotes comme Phil Reed, par exemple, qui est toujours là. Il lui manque pas mal de cheveux, d'ailleurs, vous avez remarqué. Et enfin bon, il est venu aussi avec il vend ses bouquins, enfin il vend ses stickers, enfin bon, il est toujours dans le commerce, ce Phil Reed.
Il signe des autographes aussi, je crois.
Ah oui, aussi, oui. Puis bon, bah il est très entouré, hein, parce que
il aime les jolies femmes.
Ah oui, aussi, oui, oui. Mais là, je dis, il a pris un coup de vieux.
Il y en a qui restent verts. Hein.
Ah oui, aussi, oui. Et aussi, on a été dire bonjour à tous les clubs nordistes, hein, dont le Caïman.
Qui traditionnellement ont un stand, c'est ça?
Traditionnellement, oui.
Avec, avec le sosie de Steve McQueen?
Oui, ah oui, alors il y a les motos de Steve McQueen, il y a les deux Husqvarna qu'Alain Tefli, alias 4000, présente. Juste à côté, il y a le motoclub du Cambrésis aussi, qui est juste à côté. Que dire, parce que c'était hier, il faisait une de ces chaleurs là sur le circuit. Alors, Kikaku, on était souvent à l'abri avec une bonne bière, du jus d'houblon bien frais. Parce que vraiment...
Pour éviter de se déshydrater, c'est ça?
Voilà.
À cause de la poussière.
Et surtout, il est inutile d'acheter des sandwichs là-bas sur place, parce que bon, la moindre saucisse fait 5 cm et le pain le double. Ça n'a rien du tout. Donc on n'a pas mangé, on a bu, parce qu'il faisait soif. Hein. Alors, je disais, on ne sait même plus où mettre les yeux, parce que toutes les motos, l'une de plus belles que les autres, du monde. Je me rappelle, tu étais venu l'année dernière, Luc, tu as vu le parking de moto.
Ouais, impressionnant, là, le terrain vague, là, juste devant, là, qui sert en même temps de camping, d'ailleurs.
Ouais, voilà, c'est impressionnant. Hein. Et on a pu remettre aussi, il me restait deux entrées, alors on a choisi deux entrées gratuites offertes par la ville de la moto et offertes par Kikinkou, donc... Mm-hmm. On a trouvé deux jeunes qui patientaient, qui faisaient aussi la queue, comme les voitures aux caisses, hein, faut pas l'oublier. Et donc ces deux jeunes ont reçu une entrée, ils nous ont remercié chaleureusement, bien sûr. Et puis je leur ai refilé même un calendrier.
C'est bien ça. Mais les dernières, il y avait tellement de monde aux caisses qu'il fallait plus de 2 heures. Si tu n'avais pas ton ticket avant, il fallait plus de 2 heures pour pouvoir rentrer. T'imagines?
Mais cette année, pareil, hein, la queue qu'il y avait, c'est impressionnant. Bah
c'est une manifestation qui commence à être, qui est connue et qui est reconnue, quoi.
Qui est reconnue, et puis surtout qu'il y a beaucoup de pilotes, j'ai remarqué des pilotes allemands et hollandais, parce qu'ils ont certaines des machines vraiment qui sortent de l'ordinaire. Hein, je crois le parc, qui le parc pilote est encore plus impressionnant que l'année dernière.
Hein. Ah ouais, ouais. Et la partie bourse, ça a été fait un tour là-bas ?
Alors, la partie bourse, en effet, mais dans un moindre... ils n'étaient pas très nombreux, parce que voilà ce qui se passe, c'est que les vendeurs de pièces profitent des coupes de légende aussi d'allonger les prix.
Ah ouais.
Hein, parce que bon, j'ai un copain là justement qui voulait acheter un kick, hein, tu vois, kick à coup, 50 € un kick rouillé. Alors faut que
ouais.
Effectivement. 50 €, ça fait quand même cher, quoi. Bon, ouais.
Surtout que sur internet, à mon avis, tu vas trouver du.
En effet, ouais.
Du beaucoup moins cher, quoi.
Donc, le temps a changé parce que il pleut maintenant. Le temps a changé parce que hier, au soleil cuisant, vraiment, c'était l'une des premières journées que de la région qui ont eu du soleil aussi gracieux. Quoi.
Ok, merci Guy. On te dit bonne route alors.
Okay,
en espérant que tu vas trouver l'essence pour rentrer jusque dans le nord.
Oui, mais sinon, écoute, je t'appelle et tu viens.
Avec un jerrycan. Mais allez, c'est interdit, la préfecture a interdit la livraison.
Ouais, je sais.
Jerrycan.
Tu le feras, je sais que tu le feras pour nous. Hein.
Mais bien sûr,
autrement, on te réservera un hôtel sur Dijon ou quelque part sur la route entre deux.
Ouais, voilà.
Un relais motard.
C'est du tourisme.
Un relais motard.
Un relais motard. Tu vas en trouver des relais motards dans le coin.
Okay. Ouais, il faut pousser la voiture, là, on va dormir.
La voiture ou la moto, Guy?
Pardon, la moto. Hein. Et on va dormir sous la moto. Hein.
Bah, j'espère.
Ok, Guy, allez, bonne route. Attention aux autos.
Okay.
Allez,
bye bye.
Allez, ciao, musique. Et on retrouve notre envoyé spécial, rédacteur en chef aux coupes Moto Légende, Lamiche.
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Eh bien, je vis depuis hier ici, je vis la légende. Effectivement, je vis les 24e Coupe Moto Légende sur le circuit de Dijon-Prémois. Je suis en compagnie. Alors, c'est formidable parce que ici, on rencontre des gens formidables, effectivement, des passionnés, forcément. Et j'ai rencontré Jean-Michel Prudhon, qui est, lui, alors, pas forcément passionné du circuit ici à Dijon, mais il est passionné des courses sur route. Surtout de cette course qui est mythique hein, sur l'île de Man, donc l'île de Man, une île qui est coincée là-bas en mer d'Irlande. Et Jean-Michel a un site internet mais incroyable où on remonte dans jusqu'à l'origine de la course. Je vais lui d'abord lui dire bonjour Michel. Bonjour Michel.
Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Voilà. Je ne suis pas trompé. Tu es sur ton site. Hein, tu remontes à l'origine de la course du Tourist Trophy.
Oui, effectivement, le but de ce site, c'est surtout de s'occuper de l'actuel, mais c'est également de donner aux gens la possibilité de reconnaître, de connaître tout ce qui a créé le TT depuis 1907. Donc il y a un historique complet. Quand on recherche dans les pages anciennes, on retrouve donc tout cet historique concernant cette course mythique qui se court en mer d'Irlande sur une petite île de 55 km par 22, toute petite île avec coincée entre l'Irlande du Nord, l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. Une île où il fait bon vivre, une île qui est encore un paradis fiscal.
Ah oui.
Donc pour le moment, ça existe aussi certaines largesses au niveau des pilotes et de ce qui leur arrive. Ça va certainement changer dans les quelques années à venir.
Très bien, donc il faut expliquer un petit peu, c'est particulier, hein, c'est pas comme sur un circuit ici à Dijon de 4 km. Hein. Le circuit là-bas, c'est 60 km.
Oui, le circuit fait 60 km. Le circuit, c'est tout simplement une partie des routes de l'île. Les routes ferment une heure avant le début des courses, avec des marshals qui bouclent tous les carrefours. C'est très, très bien orchestré. Et puis, environ un quart d'heure après le passage de la dernière moto, les routes ouvrent et on peut réutiliser à nouveau la route.
Alors, allô ? Allô ?
Oui, on est là.
Ouais. Donc, Jean-Michel, aussi, c'est particulier parce qu'il y a une course une journée sur deux.
Alors oui, d'abord il y a une semaine d'essai, ce qui est énorme, c'est 15 jours à TT, donc essai tous les soirs à partir de 17h jusqu'à 21h30, donc ça aussi ça nous fait drôle parce que je roule très tard, parce que très très tard. Et puis il y a une semaine de course, donc le samedi, le lundi, le mercredi, le vendredi, à raison de deux courses par jour.
Oui, il y a ce fameux Sunday, le dimanche, où on peut rouler, tous les motards peuvent rouler, emprunter le circuit.
Mais une fausse question. On peut toujours rouler sur le circuit. Mais le matin, les gens font les fous. Et c'est simplement le jour le plus catastrophique pour le TT. Mais bon, c'est la coutume. Il faut savoir, par exemple, que pendant tout le TT, les 15 jours, la partie montagne est en sens unique, vitesse libre. C'est-à-dire qu'il y a 17 km que les gens prennent à forte allure, puisque moi je roule et j'ai une moto de loc là-bas. Et bien, sur la moto de loc, par exemple, et bien, vous faites rouler par des machines sur 250.
Voilà.
Et dans la montagne, c'est toujours terrifiant.
D'accord. Qu'est-ce qui fait participer les pilotes à cette course? Parce que il faut avouer que tous les ans, il y a des morts hein, quand même.
Oui, on est dans un. Ce qui est un petit peu différent, on est chez un contexte anglo-saxon. Je veux dire que beaucoup d'Irlandais roulent, en particulier les Irlandais du Nord, qui ont connu une autre notion que nous de la vie et de la mort, mais serait-ce que parce que c'est passé avec les catholiques et les protestants. La course de moto est quasiment sport numéro un en Irlande. En plus de ça, les gens, pour les Français, ont envie de liberté, de nouvelles. Sortir des circuits, effectivement prendre du risque, du danger, de l'adrénaline, mais avec le plaisir également de rouler sur un circuit absolument mythique.
Alors, il faut rappeler aussi que ce circuit, cette course faisait partie du championnat du monde il y a encore quelques années.
Oui, jusqu'en 76, elle faisait partie du championnat du monde, mais elle a été retirée pour des raisons d'accidents, Gilberto Parletti, entre autres, qui se sont tués là-bas, et des pilotes ont boycotté, et on a enlevé cette course du championnat du monde en 77.
Alors, ce qui fait qu'un circuit de 60 km, on voit, quand on est spectateur, on voit finalement passer que deux ou trois fois les pilotes, en fait.
Alors, les pilotes partent toutes 10 secondes. Alors, les courses les plus courtes, c'est 6 quarts, c'est 3 tours, mais sinon les autres courses sont sur 4 ou 6 tours. Avec un ravitaillement et deux ravitaillements pour les courses de 6 tours, pour les machines Superbike et les Superstock. Avec donc, oui, on les voit passer, mais on connaît les écarts, il faut s'équiper d'une radio, il faut s'équiper de ce qu'il y a. Oui, il y a une radio interne qui permet de savoir les classements tour par tour et puis surtout d'écouter la rumeur, les Anglais qui se lèvent, qui, quand il y a un grand champion, ça a été Dunlop, Joe Dunlop, qui a réveillé les foules à chaque passage.
Alors, on va parler du pilote français engagé là pour 2016, hein, parce que là c'est le DTC la semaine prochaine, je pense, hein, et après c'est la course. Il y a aussi l'environnement, hein, il y a des tas de pubs avec des photos, les photos des pilotes qui ont participé à toutes les éditions.
Oui, effectivement, alors, on s'en parle de l'environnement, il y a deux musées de moto à aller voir, il y a un autre musée de moto et voiture. Il y a des très beaux musées partout, on va dans les pubs, même les coiffeurs ou les magasins de sous-vêtements pour femmes ont des motos en vitrine. Ça, c'est folklore. Mais au niveau de la course, il y a une semaine d'essai, une semaine de course. Au niveau des pilotes français, on a 5 pilotes engagés en solo. En l'occurrence, un énorme team qui s'appelle Optimark. Jean-Marc Rommler, qui est présent en Coupe Auto Légende, est un qui engage 6 motos cette année au Tourisme Profi. 3 pour Xavier Denis, il court dans toutes les catégories, hein, solo. Julien Tonuti, qui est champion de France des rallyes, lui il roule sur une Yamaha prêtée par Yamaha officielle, une Yamaha officielle, roule en Super Sport, Super Stunt et Super Bike. Avec eux, il y a Morgan Gauvignon qui lui sera en Super Sport. Puis à côté de ça, le Timothée Monat, qui court depuis plusieurs années déjà au TT, qui va rouler dans 3 catégories, très certainement en moto TT0 électrique. Super Sport et Super Twin, qui est la catégorie, je dis, la moins puissante, avec des moteurs bicylindres 650 cm3. Et puis Fabrice Midet, qui lui roule bien avec sa Kawasaki GX10R, pour rouler dans les catégories 1000 cm3, Superbike, Super Stock et Senior TT. Et puis à côté, on a les 6 cars. On a 5 6 cars d'engagés, avec le pilote Lionel Mansuy, on a Thierry Laforêt, on a Claude Montagnier, qui roule également sur les fameuses couleurs Optimark. On a la famille Leblond, donc François Leblond et sa fille Estelle, qui a 23 ans, qui est l'idole des foules, qui a fait 18e l'an dernier. Elle est pilote, hein, je dis bien, elle est pilote. C'est une vraie nana, c'est pas un camionneur, c'est une vraie nana, et c'est l'idole de toute l'île, la télé, tout le monde est là, et vraiment, c'est exceptionnel ce que c'est exceptionnel, et jamais vu.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'île même, quand on est motard, c'est une fois dans sa vie, au moins y aller une fois.
Il faut y aller une fois. Le problème, c'est quand on y va une fois, on n'a qu'une envie d'y retourner. Pour moi, ce sera le 26e voyage cette année. Donc, je vis une partie de ma vie sur l'île de Man, tout au moins en présence, mais également sur mon site, qui est www.tourist-trophy.fr, sur lequel vous pouvez non seulement suivre le TT au jour par jour, tous les résultats, les courses, les photos, tous les éléments seront mis pour le TT, mais également tout au long de l'année, toutes les courses sur route sont référencées. Ce matin, il faut savoir par exemple que j'ai mis que Fabrice Miguet, qui va rouler le TT, a fini 16e des essais d'une course en Tchécoslovaquie qui s'appelle la Oris 300, les 300 courbes de Gustave Havla. Et voilà, donc les gens qui vont sur ce site peuvent le suivre.
Alors effectivement, hein, tu reprends les résultats sur des courses de route. Alors en Irlande, hein, c'est la course de l'Ulster, je crois, c'est ça. Et à Macao aussi.
Macao, tout ce qui est course européenne également, parce qu'il y a un championnat qui s'appelle IRRC en Irlande. En Europe, en Irlande, il y a la Nord-Ouest 200, le SIA Grand Prix, la Tendraji, la Byzantrim, la Cookstone. Il existe énormément de courses en Irlande. Et donc, quasiment tous les 15 jours, les pilotes sont sur les machines. Et les résultats, tout peut tout suivre sur ce site.
Merci, alors, merci, Lamiche. Merci, Jean-Michel. Merci, Lamiche.
Ah bon, bah, vous me coupez alors.
Ouais, non, mais une fois n'est pas coutume.
Un personnage exceptionnel devant moi. Là.
C'est vrai.
On va l'inviter un jour à Lille. On fera une émission.
Mais avec plaisir. Avec plaisir.
Au revoir, bonne émission.
Ouais. Et va chercher de l'essence, Ami, pour rentrer.
Je vais chercher, oui, bah, j'ai eu des problèmes pour venir. Hein.
Allez, à bientôt, attention aux autos.
Salut. We'll be right back.
Et on retrouve notre motard globetrotter de Kikinkou, Yanis, qui va nous parler balade.
Ben, je vais vous parler balade, je vais surtout vous parler week-end, vacances, parce qu'on est un mois et demi des vacances, un petit mois et demi du début des vacances. Hein, en tout cas, pour les enseignants, parce que moi, je suis enseignant, donc c'est facile.
Ça tombe bien, Michel.
Hein,
aussi.
Michel aussi. Hein. Bah oui, parce que rien de tel que partir en vacances avec sa moto, hein, surtout quand on habite dans notre région où pendant l'année, il fait pas toujours très beau et il faut profiter des mois d'été. Puis c'est dommage de laisser sa moto au garage. Hein, donc, sans compter qu'aujourd'hui, les possibilités de partir en vacances à moto sont multiples et puis ça s'organise aussi. Je rappelle qu'il y a pas mal de alors si on parle de la France déjà, hein, il y a pas mal de territoires français. Sur quand j'entends par territoire, c'est les départements, c'est les régions qui ont intégré la problématique du tourisme à moto, hein, en particulier donc les comités départementaux ou régionaux de tourisme, qui ont intégré donc cette réalité et qui sont de plus en plus nombreux à proposer des produits spécifiques.
Des circuits.
Alors ça passe par des circuits.
Et puis un label accueil motard.
Alors il y a un label accueil motard, exactement. Donc des circuits labellisés et des hébergements labellisés accueil motard. Hein, c'est le cas, par exemple, alors je crois que le premier territoire en question, c'était en Franche-Comté, le département du Doubs, voilà, qui a lancé son label. Donc dans le Doubs, la bienvenue aux motards. Donc c'était une labellisation de gîtes, d'hôtels qui propose des services spécifiques aux motos, hein, garage, de l'information, mise à disposition d'outils, des locaux pour sécher son matériel, parce qu'on sait, il fait pas toujours beau, etc. Des bombes de graisse pour graisser les chaînes, pour ceux qui n'ont pas de cardan, etc. C'est aussi le cas en Auvergne, la région Auvergne qui était très dynamique en la matière. Hein. L'Auvergne a mis au point, a défini une vingtaine de circuits, hein, et puis à labelliser elle aussi toute une série d'hébergements qui proposent c'est autour d'une charte, hein, qui se recoupe, toutes les chartes d'hébergement motard se recoupent aujourd'hui. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un projet qui s'appelle Sunrise Experience. Voilà.
La Lozère aussi, non? Je crois la Lozère.
Plus récemment le Tarn, la Lozère, la région Limousin. Hein, le Limousin, c'est Le Limousin s'est très récemment ouvert aussi au tourisme à moto. La Champagne-Ardenne. Hein, donc, à chaque fois, un peu sur le même principe.
Avec la possibilité donc d'avoir ces circuits sous forme de roadbook.
Sous forme de roadbook. Télécharger, exactement. Donc, il y a des formats papier et puis des formats roadbook téléchargeables.
Pour le mettre dans le GPS.
Pour mettre dans le GPS. Hein, donc, téléphone. C'est compatible GPS pour mettre sur son téléphone. Et puis, toute une liste d'hébergements aptes à offrir des services prêts à satisfaire la demande particulière des motards. C'est pas pour rien. Hein, ils ont remarqué que les motards ont les moyens, enfin les motards qui voyagent ont souvent de bons moyens, une population qui est bien intégrée dans la vie, hein, qui a souvent des CSP plutôt plus, donc des moyens pour acheter une moto, des moyens pour voyager à moto, donc c'est un marché comme un autre. Hein.
Alors il y a du coup tu peux faire le tour de la France maintenant en utilisant ces guides, quasiment.
D'autant que même dans les régions où il n'y a pas de circuit spécifique pour les motards, il y a d'autres structures qui ont réfléchi, qui ont pensé aux motards. Je pense en particulier aux Gîtes de France. Mmh. Ou les Logis de France, la chaîne hôtelière des Logis de France, s'appelle d'ailleurs les Logis maintenant, parce que c'est une chaîne qui est devenue européenne et qui ont elles-mêmes développé, ces deux chaînes ont développé elles-mêmes des labels Bienvenue aux motards, Gîtes motards, Logis motards, qui proposent des services similaires. Alors, on parle, il y a aussi quelques campings, hein, il y a des campings motards, donc des campings où les motards, entre autres, sont accueillis, enfin où les motards sont accueillis de façon privilégiée et qui partagent le camping avec d'autres touristes qui ne le sont pas, mais aussi des campings 100% motards.
Interdits aux voitures.
Voilà, interdits aux voitures, interdits aux camping-cars. Il y en a un dans la Drôme, il y en a un
dans
en Auvergne,
dans l'Hérault,
il y en a un dans l'Hérault, voilà, il y en a 5 ou 6 en France aujourd'hui, il y en a un autre en Dordogne, là au sud de Sarlat. Mmh. C'est vraiment
route
des
99.
Campings. Alors, route 99, c'est en Auvergne, hein, dans le Puy-de-Dôme. Ce sont vraiment des campings 100% motard. Hein, on ne trouvera que des motards.
Il y a pas mal de littérature là-dessus, je crois.
Il y a pas mal de littérature, oui. Il y a des guides. Alors sur Internet, on trouve un tas de choses. Hein. Il suffit de taper tourisme à moto, gîte moto, camping moto, hôtel moto, relais moto. N'oublions pas aussi le label porté par la revue des Chevaliers de la Route. J'ai un trou, ben c'est pas grave, ça va revenir. Hein, c'est le label des Relais Motards. Hein. C'est un label privé, un label associatif.
Il y en a deux, il y a Relais Motards et Relais Moto, je crois.
Et Relais Moto, voilà, c'est un autre label, tout à fait. Alors, ça pour ne parler que de l'exemple français, parce que des initiatives en la matière, et moi j'invite aussi les motards, on dit souvent que les touristes français sont grégaires, ils restent en France, mais aller aussi passer les frontières, ça coûte pas plus cher, et puis il faut parfois aussi changer d'air. Il y a des pays il y a d'autres pays dans lesquels on a une politique d'accueil aux motards bien plus ancienne parfois qu'en France, et tout à fait aussi efficace.
Comme quoi par exemple ?
Par exemple l'Écosse. Avec le programme Welcome Bikers, hein, pareil, des gîtes, des hébergements labellisés, des itinéraires labellisés, c'est porté par donc le gouvernement écossais, au Luxembourg, hein, et c'est pas très loin de chez nous pour les motards du Nord. Hein, le Luxembourg, j'en parlerai tout à l'heure, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. En Allemagne, en Suisse, en Italie, tantôt porté par les territoires administratifs, tantôt porté par des associations ou des chaînes de professionnels du tourisme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est très facile. On retrouve d'ailleurs toute une information, toutes les informations possibles, imaginables, dans pas mal de guides papier. J'ai devant moi par exemple le guide Michelin consacré aux Alpes à moto. Hein, c'est un guide à l'échelle européenne. Qui conseille 23 itinéraires dans les Alpes, avec des conseils pour l'hébergement, pour les itinéraires, avec Roadbook. Il y en a un qui est consacré aussi aux des itinéraires européens, hein, alors pas seulement dans les Alpes. Donc c'est à mon avis des guides extrêmement bien faits, extrêmement bien faits. Je conseillerais aussi la lecture du bimensuel. Alors bimensuel, en fait, ça paraît tous les deux mois, d'un magazine fort bien fait qui s'appelle Road Trip Magazine, hein, le magazine de l'aventure, hein, du tourisme et de l'aventure, du voyage et de l'aventure à moto, qui relate et qui va vous donner des idées de voyage à la fois au bout du monde, mais parfois aussi au coin de chez soi. C'est un magazine fort bien fait en papier glacé. Il y a des photos d'une très très grande qualité. Ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte 6,50 €. C'est tous les deux mois. Et si vous voulez des idées de voyage, d'aventure, de tourisme, de destination intéressante à faire à moto, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment lire ce magazine.
Il y a des interviews de Globetrotters à moto.
Il y a des interviews de Globetrotters à moto. Donc il y a des reportages réalisés par les journalistes. Par les journalistes rédacteurs du magazine, mais une large place, et l'essentiel même de la place, est consacrée à des témoignages de voyageurs. C'est vraiment très, très pro, c'est très intéressant. Et puis, pour ceux qui envisagent de préparer une aventure à moto en Europe ou partout ailleurs dans le monde, voire des tours du monde, il y a plusieurs guides. À l'intention des futurs voyageurs qui doivent préparer leur voyage à moto. J'ai entre les mains là celui de Laurent Bandel, un grand voyageur à moto par excellence. Alors donc ça s'appelle, son guide s'appelle L'Aventure à moto. C'est un guide qui fait près de 500 pages et qui, entre autres généralités sur la préparation d'un voyage et conseils à la préparation d'un voyage, aborde ensuite chaque destination, continent par continent, pays par pays, et qui relate aussi ses propres expériences. C'est un incontournable. C'est vraiment un incontournable. C'est publié par Overland Aventure, hein, c'est l'éditeur Overland Aventure, et c'est disponible dans la désormais célèbre librairie spécialisée en la moto, s'appelle Libramoto. Hein, Libramoto, c'est une librairie parisienne qui n'est consacré uniquement.
Magasin,
oui, c'est un magasin. Oui, il y a un magasin, mais il y a moyen de commander. Il y a moyen de commander par internet sur le site libramoto.fr. Hein, les gars sont super sympas et ils commercialisent donc ces.
Il n'existe pas de version numérique de ces, genre en format flipbook par exemple.
Hein, celui-là non, je pense pas. Non, 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 je l'ai pas vu sur internet. C'est un gros pavé. Hein, il y en a sans doute d'autres qui le sont. Il y a par exemple, alors je sais pas s'il est d'ailleurs publié sur. sur Internet, mais il y a le guide, le voyage à moto, le guide pratique d'Aldo Fuseo, qui est très intéressant. Et puis, donc, encore en avoir, bien en avoir d'autres. Et puis, des conseils pour le voyage à moto, il y en a partout sur Internet aussi. Mais je pense que les versions papier sont pas mal aussi.
Ouais. Ça me fait penser à, dans le dernier Motomag, il y avait justement le voyage de Jobard qui était parti en vieille BM qui avait plus de 200 000 km,
ouais,
je crois.
Ouais, ouais, ouais.
Et le but était, il avait volontairement choisi cette moto-là pour pouvoir justement rencontrer les gens, parce que forcément il allait avoir des galères, et parce que ce qui l'intéressait dans le voyage, c'était justement la rencontre de l'autre, quoi.
Et forcément, il a eu des galères, hein. Il a cassé sa moto, enfin sa moto, il n'a pas eu d'accident, mais sa moto a eu une grosse panne, et ça lui a donné l'occasion de tester la solidarité extraordinaire des motards russes. Les motards russes qui s'arrêtent. Ça m'a fait penser aussi à l'aventure de
Lobo.
El Lobo, qui est parti comme ça à l'aventure à travers Harley.
Et qui a fait un tour du monde.
Et un tour du monde et qui a pu tester l'extraordinaire solidarité des motards russes.
Des bikers notamment.
Des bikers russes.
Et qui l'ont d'ailleurs protégé, parce que c'est pas toujours simple de traverser la Russie.
C'est pas toujours simple, ça peut être extrêmement dangereux. Les routes sont pas bonnes et on peut faire de très très mauvaises rencontres. Alors maintenant, pour ceux qui hésiteraient à préparer eux-mêmes leur voyage, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas le temps, ils sont un peu... Bon, voilà, on n'a pas l'habitude de voyager, donc on a besoin d'un support technique. Je vous rappelle qu'il y a énormément d'agences de voyage spécialisées dans le voyage à moto. Moi, j'ai fait une petite étude rapide, j'en ai trouvé 600 sur Internet.
Ah ouais, quand même.
600. Alors, attention, hein, pas qu'en France, mais rien qu'en France, il y en a déjà plusieurs dizaines. Ils peuvent vous vendre n'importe quoi, vous emmener en Grèce, en Espagne, en Italie, en Écosse, mais aussi vous organiser un tour du monde.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Bon, il faut mettre le prix. Hein.
Ah bah ouais,
c'est forcément plus cher. C'est un service qui vous est vendu, c'est forcément plus cher que si vous préparez votre voyage seul. Mais il y a une assurance, ils savent se débrouiller pour... Quand on fait un tour du monde, il y a parfois des lourdeurs administratives.
Ouais,
hein, on n'est pas en Europe. Les frontières sont pas toujours imperméables comme elles le sont aujourd'hui. Elles ne sont pas toujours perméables comme elles le sont en Europe. C'est parfois très compliqué. Partir dans au sein d'une organisation, ça coûte cher, mais ça facilite les choses.
C'est vrai. Merci Yanis, tu nous as mis l'eau à la bouche là. On a envie d'enfourcher la moto et de partir faire un tour. J'entends, il y a déjà le générique. Merci Patricia, merci Michel d'être venu.
Hein, merci à vous, merci de votre accueil.
Voilà, tu viens quand tu veux, c'est pas un souci. Merci Yanis pour toutes ces informations.
Eh ben, bon dimanche à tous, hein, malgré la pluie. On va quand même essayer de sortir les motos. Enfin, moi j'ai sorti la mienne, mais je vais essayer de m'en servir cet après-midi quand même. Hein.
Dimanche prochain, on retrouvera Papat et Lamiche pour notre motard en or, et merci pour cette programmation musicale de qualité.
Merci et au revoir.